recevoir la parole de Dieu ce matin. Donc, gloire à Dieu. Pasteur Mafou est en Pennsylvanie, où il fait froid aussi, parce que vous savez qu'il y a une vague de froid qui a vraiment frappé les États-Unis. En fait, il y a des places dans le sud où il faisait plus froid hier qu'ici au Québec. Donc, c'est quelque chose, et eux, ils sont pas habitués comme nous, hein. Donc, mais ce matin, on va recevoir la parole, et j'ai vraiment hâte. C'est le début de l'année. Et j'ai vraiment hâte de partager avec vous des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur pour la vision, la direction de la vie comblée sur le plan global de tout ce que le Seigneur nous appelle à faire ensemble en tant qu'Église. Pasteur Mafou, la semaine prochaine, il va venir, il va continuer sur les choses spécifiquement concernant la congrégation ici également. Mais c'est vraiment important qu'on soit attentif à ce que dit l'Esprit aujourd'hui. Parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. C'est pas notre Église, c'est son Église. C'est lui qui a payé cher pour son Église. Il a versé son sang pour son Église. Et il est ressuscité, comme on vient de chanter. Il est vivant, comme on vient de dire. Et il revient bientôt aussi. Gloire à Dieu. Donc ce matin, avant d'aller dans la parole, je vous invite à prendre votre Bible, si vous en avez une avec vous. Sinon, et je vois des personnes qui sortent leur iPhone, leur iPad, c'est correct aussi. Moi aussi, je fais ma lecture du matin sur mon iPhone. J'ai YouVersion et c'est merveilleux. Mais que ça soit en papier, que ça soit électronique, ou sinon, il y a des feuilles que vous avez reçues également, que ce matin, les versets qu'on va voir sont inscrits là-dessus. Mais prenez cela et on va déclarer quelque chose. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec sa bouche en croyant du cœur s'accomplit. Amen. Donc, on ne veut pas juste écouter un sermon, on veut être transformé par la puissance de Dieu. Donc, on va dire ensemble, voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil, mais je serai changé, transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Donc, ce matin, le message qui bouille dans mon cœur depuis, en fait, plusieurs mois, depuis longtemps, c'est le suivant. C'est le temps que ça change. C'est le temps que ça change. Combien de vous croyez que c'est le temps que ça change? C'est quoi qui doit changer? Il y a beaucoup de choses qui doivent changer. On va voir ensemble plusieurs de ces choses qui doivent changer. Mais en fait, le sous-titre, c'est comment changer votre vie pour changer le monde. Parce qu'on veut voir le Seigneur accomplir son œuvre dans ce monde. On veut voir le monde changer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le monde a besoin d'être changé? On a juste à regarder les journaux, écouter la radio, regarder à la télévision, et c'est clair que le monde a besoin de changement. Et de changer pour le bien et pas pour le mal. Mais qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que avant de changer le monde, il faut qu'on soit changé soi-même. Individuellement, il faut qu'on change. Collectivement, en tant qu'église locale, il faut qu'on change. Ensuite, on va pouvoir procéder à voir le monde autour de nous changer. Amen. Et c'est une chose qui bouille vraiment dans mon cœur parce que je suis convaincu plus que jamais que c'est le temps. Et c'est vraiment clé, c'est le temps que ça change, pas seulement dans notre vie personnelle, mais plus spécifiquement, c'est le temps que ça change ici au Québec. Et ça, c'est vraiment fort dans mon esprit. Je sais que le Seigneur a un plan pour le peuple québécois. Je sais que c'est un plan qui est vraiment stratégique pour ce que le Seigneur veut faire dans le monde, surtout dans le monde francophone, mais même au-delà, il y a des choses que le Seigneur veut faire. Et c'est pourquoi il a besoin de effectuer des changements en nous individuellement, en nous en tant qu'Église et dans les autres églises québécoises aussi, afin que l'Église collective, l'Église québécoise, puisse se lever et faire qu'est-ce que le Seigneur l'appelle à faire dans le monde. Amen. Et je sais, et c'est vraiment, c'est tellement fort dans mon cœur, vous savez, il y en a beaucoup qui connaissent l'histoire. Moi, je connaissais pas du tout le Québec, je connaissais pas le Canada, à part quand j'avais 8 ans, ma famille et moi, ma famille, on était des maniaques du plein air et du canotage. On a fait du canot camping pendant une semaine. On a traversé la ligne canadienne sur un grand lac en Ottawa. Et ça, c'est la seule chose que j'ai vue au Canada, c'est quelques personnes la journée de notre départ. Et après ça, c'était des mouches et des animaux et les lacs et tout. Mais ça, c'est à l'âge de 8 ans. Mais après ça, en 1989, j'étais dans la prière et je priais en autre langue, je chantais en autre langue. Vous savez ce que je faisais, ceux qui fréquentent l'église depuis un certain temps, je passais l'aspirateur et je louais le Seigneur. Et le Seigneur a dit, je veux que tu commences à prier pour le Québec et le peuple québécois. Et je ne savais pas pourquoi. J'avais aucune idée. Je connaissais personne ici. Mais moi, plus on priait, plus on cherchait la face du Seigneur, plus c'est devenu clair que Dieu avait quelque chose de spécial qu'il voulait faire ici, dans cette province, avec ce peuple. Amen. Et qu'est-ce que je vois pendant des longues, longues, longues années, et malheureusement ça a changé, mais pendant des longues années, si on regarde sur le plan global, mondial, si on regarde par exemple les États-Unis, pendant longtemps, 9 missionnaires sur 10 venaient des États-Unis. 9 dollars sur 10 pour les missions mondiales venaient des États-Unis. Ça commence à changer maintenant. En fait, il y a des pays en développement qui commencent, en Afrique et en Amérique du Sud, qui commencent à dépasser même les États-Unis. Mais pendant longtemps, c'était comme la bastion, c'était le quartier général pour les missions mondiales, c'était les États-Unis, ici en Amérique du Nord. Et ce que je sais dans mon cœur, ce que je crois fermement, c'est qu'il y a des ressources spirituelles, naturelles et dans tous les sens ici dans la province du Québec. Je crois que le Seigneur veut susciter une armée des Québécois, des Québécoises ici au Québec qui vont être comme les États étaient sur le plan global. Je pense que quand on regarde la francophonie, 51 pays de la francophonie, je crois que le Seigneur veut une église forte et victorieuse ici au Québec qui va pouvoir amener des ressources pour évangéliser la francophonie. Amen. J'y crois de tout mon cœur et c'est fort, fort, fort dans mon esprit. Et cette église, la vie comblée, nous avons un rôle important à jouer dans ce plan. Mais c'est le temps que ça change. Parce que si on regarde aujourd'hui, dans la ville de Drummondville, on a à peu près 100 000 habitants. Et ce qu'on sait, c'est que probablement aujourd'hui, selon les statistiques que nous avons accumulées à travers les années, il y a probablement, selon qu'est-ce que j'ai entendu par des personnes bien placées, dans les églises catholiques, il y a peut-être environ 1500 personnes qui assistent régulièrement à tous les dimanches dans les églises. Il y a à peu près 500 chrétiens évangéliques qui sont dans les églises, c'est-à-dire environ 2000 habitants sur 100 000 qui sont dans l'église ce matin. C'est-à-dire qu'il y a 98 000 qui ne sont pas. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est le temps que ça change? Amen. Et vous savez que j'ai emprunté, cette phrase était dans mon esprit, mais c'est intéressant, je commençais à faire un peu de recherche et j'ai vu que cette phrase, c'est le temps que ça change, c'est une phrase historique. Et il y en a ici qui, peut-être vous vous rappelez de cela. Moi, je peux vous avouer que c'est 7 ans avant que je suis venu au monde, parce que je suis venu au monde en 1967. Et en 1960, il y avait une campagne électorale ici dans la province du Québec, où Jean Lesage était élu comme premier ministre. Mais vraiment, c'était vraiment le motto de la campagne, c'était « c'est le temps que ça change ». C'est le temps que ça change. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que, avec son élection, et avec le Parti libéral, et je suis là, pas ici pour dire que c'était bon ou pas bon, ou pour prononcer sur les valeurs politiques ou quoi que ce soit, mais c'est juste un fait historique que je mentionne ce matin, que ici, dans la province du Québec, en 1960, il y avait un changement. Et c'était un changement assez radical. Avec l'élection de Jean Lesage, beaucoup de choses ont commencé à changer sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social ici au Québec. Et ça a déclenché qu'est-ce qu'on appelle la révolution tranquille. Et selon les dictionnaires, etc., si on peut regarder, la Révolution tranquille est une période de changement rapide vécue par le Québec dans les années 1960. Il y avait des changements rapides. Il y en a ici, vous vous rappelez de ces changements parce que vous étiez ici avant et vous avez vécu la période de transition et vous êtes maintenant témoin oculaire de ces changements. Combien de vous vous rappelez de ces années-là? Hein? Il y en a ici que je sais que vous avez vécu et expérimenté ces moments. Et qu'est-ce qu'on sait? Parmi les choses qui ont été changées, une des choses principales qui a changé, c'est qu'il y avait une séparation de l'État avec l'Église. Parce qu'ici au Québec, pendant longtemps, c'est l'Église qui gouvernait et qui dirigeait beaucoup des institutions et beaucoup des parties de la société québécoise, n'est-ce pas? Mais et c'est par la suite, et pendant cette révolution tranquille. En fait, je vais juste lire le commentaire de quelque chose que quelqu'un a dit, un historien québécois qui a dit ceci. Percevons dans le passage du Québec à la modernité, entre guillemets, une évacuation du divin. Une évacuation du divin pour faire plus de place à la raison. Donc, ça, c'était une des choses qui s'est passée dans la province du Québec, c'est que il y a, à cause du fait que pendant longtemps, la religion avait une emprise dans la société, la religion, je dis pas forcément Jésus, mais la religion, la tradition religieuse avait un contrôle dans la société. Et dans cette révolution tranquille, les gens ont fait tellement de changements. On est maître chez nous, c'est ça. C'était ça un autre dicton de cette époque. Maître chez nous. Hydro-Québec a pris naissance dans ces années-là. On prend contrôle de notre destin. On prend contrôle de notre économie. On prend le contrôle de nos vies. C'est plus la religion qui va nous diriger. Nous allons nous diriger nous-mêmes. Et il y a des bonnes choses qui sont sorties de cette période, mais quand même, en fait historique, sans commentaire, c'est qu'il y avait une évacuation du divin et les gens ont dit, bon, on va laisser de côté le divin et on va donner plus place à la raison. Et c'est-à-dire qu'il y avait un exode de l'Église. Les jeunes ont dit, on ne veut plus fréquenter l'Église. On ne veut plus être dans la religion. On ne veut plus de tout cela. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on a une société, où Ginette partageait ça mercredi soir, où c'était Noël ou Pâques, c'était quoi? C'était à Pâques. À Pâques, et une de ses collègues, une jeune femme, ne savait pas du tout la signification de Pâques. Et elle a dit, oh, mais ça, c'est la chose à partir de l'arche de Noé, n'est-ce pas? Donc, les gens aujourd'hui connaissent presque rien. Ils connaissent absolument rien. Pendant longtemps, qu'est-ce que la Révolution tranquille a donné naissance à une société québécoise qui était catholique non pratiquant. Et même, je dirais que quand nous sommes arrivés, il y a 22 ans au Québec, à presque tout le monde qu'on parlait avec, les gens disaient presque toujours, mais moi je suis catholique, mais non pratiquant. Je suis catholique, mais non pratiquant. Et donc, eux, ils ont des enfants qui était même encore presque catholique et très peu pratiquant. C'est-à-dire que des fois, ils assistaient à un mariage, des fois, ils allaient au baptême, des fois, et à Pâques ou à Noël, ils pourraient peut-être aller voir une messe. Mais écoute, aujourd'hui, eux ont eu des enfants et leurs enfants n'ont jamais mis un pied dans une église nulle part. N'est-ce pas vrai? Et moi, je dis, gloire à Dieu, parce que la moisson est grande, et parce qu'aujourd'hui, on a une vide qui existe dans la société. Les gens ont dit, dans les années 60, on a eu assez, on est tanné de la religion, et ils ont abandonné la religion, et maintenant, ils sont en train de tâtonner et de chercher quelque chose. Pasteur Mafou a partagé ça il n'y a pas longtemps. Un de ses collègues qui dit, c'est comme s'il y en a qui maintenant, ils regardent et ils trouvent par terre la torche hein, de la croyance en Dieu, mais ils savent pas trop quoi faire avec ça. Ils savent qu'il y a un Dieu. Ils savent que Dieu existe, mais ils savent pas trop comment gérer ça. À la radio, il y a quelques semaines, j'ai écouté, il y avait des personnes qui parlaient de certains phénomènes ici au Québec, parce que les gens ne fréquentent plus les églises, quand c'est le moment d'enterrer les morts et d'avoir des services funéraires, il y a toutes sortes de gens qui sont en train d'inventer presque leur propre religion. Parce qu'ils ont constaté qu'il y a quelque chose. On n'est plus dans la religion, mais il y a quelque chose, donc ils inventent des choses. Et c'était très intéressant parce que j'ai entendu un commentaire qui disait, oui, mais il faut faire quand même attention, il faut pas juste dire n'importe quoi, il faut pas inventer n'importe quoi parce que c'est quand même un peu sérieux. C'est comme si c'est les aveugles qui dirigent les aveugles. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais ils savent pas c'est qui, ils ne savent pas c'est quoi, et donc ils sont en train de chercher. Moi, je dis, nous avons la réponse. Amen. Et la réponse, ce n'est pas la religion. La réponse, ce n'est pas venez à l'église le dimanche matin. La réponse, c'est venez à Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est vivant, qui est ressuscité. Ça, c'est la réponse. La réponse, c'est de vivre avec Jésus à tous les jours et de laisser Jésus nous changer et de nous transformer. Et les gens qui nous entourent vont voir le changement. Ils vont voir que Jésus est vivant. Ils vont voir que Jésus est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui guérit encore les malades, qui fait encore des miracles. Et quand les gens ici au Québec voient cela, laisse-moi vous dire, on va avoir une nouvelle révolution. Mais ça ne serait pas une révolution tranquille. Ça serait une révolution pas trop tranquille. Ça serait plutôt un réveil. Les gens vont venir à Jésus-Christ et moi j'y crois de tout mon cœur par des centaines et même des milliers si on laisse le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre cœur. Si on se laisse transformer, si on se laisse changer, le Seigneur va faire ce qu'il a promis de faire. Amen. Et aujourd'hui, on veut parler de cela et on veut regarder dans la parole de Dieu des choses qui vont nous aider à se laisser transformer, à être changés afin que le Saint-Esprit puisse nous se servir de nous pour changer le monde. Amen. Donc, tout le monde dit, c'est le temps que ça change. Hein? On va commencer une révolution. Pas comme les Beatles, hein? You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. Mais c'est pas dans ce sens-là. Mais on veut voir le monde changer pour la gloire de Dieu. Alléluia. En fait, la définition de révolution, c'est un changement soudain et important d'ordre économique, moral ou culturel. Et un synonyme de la révolution, c'est le bouleversement. Il y a des fois, il faut bouleverser des choses. Des fois, notre façon de penser, notre façon de faire, notre façon de croire doit être bouleversée pour le bien. Pas pour le mal, mais pour le bien. Et c'est ça qu'on voit en Actes chapitre 17, verset 6, n'est-ce pas, avec les premiers apôtres. Ils ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ils avaient, l'Église du premier siècle avait une réputation. Les leaders de l'Église avaient une réputation comme des gens qui faisaient des vagues. C'est des gens qu'ils vivaient pas juste une petite vie égoïste, une petite vie tranquille, mais les gens qui ont bouleversé le monde et sont venus ici. Moi, je veux avoir une telle réputation qui nous précède aussi et qui nous suive. Amen. Hallelujah. Combien de fois vous voulez bouleverser le monde pour le bien? Et donc, la clé de tout cela, c'est de comprendre tout simplement que c'est Jésus qui change les gens et les gens changent le monde. Amen. Ici, ce n'est pas une chose qu'on peut faire dans notre propre force. Il y en a beaucoup qui veulent changer le monde. Comme j'ai dit, c'était une chanson justement dans les années 60 qui était très populaire. « You say you want a revolution ». Hein? Tu dis que tu veux une révélation, mais tu sais que nous voulons tous changer le monde. C'est ça que les Beatles ont chanté. Mais il y en a beaucoup qui veulent changer le monde à leur manière et ils veulent mouler le monde à leur image, à qu'est-ce qu'ils pensent que le monde doit être. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut comprendre que le monde ne nous appartient pas. C'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. Et Jésus, en fait, la parole de Dieu dit ceci en Colossiens, que toutes choses ont été créées par lui et toutes choses ont été créées pour lui. Donc, le désir de notre cœur devrait être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde? C'est quoi ta volonté? Que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Et si on vit avec cette passion, c'est ça. On laisse le Seigneur nous changer, on va être capable de changer le monde pour sa gloire. Amen. Comme on voit en Actes chapitre 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Pierre et Jean, qui étaient apôtres de Jésus, vous connaissez bien l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, bref, si on peut résumer même avant d'aller plus loin, si on veut être changé et si on veut changer le monde, il faut laisser le Seigneur Jésus nous changer et il faut passer du temps avec lui. Plus on est avec Jésus, plus on va changer. Plus on va adopter sa façon de penser, sa façon de parler et sa façon d'agir. Et notre changement va être visible dans le monde qui nous entoure. Amen. Parce que je ne veux pas rester tel que je suis. Je ne veux pas. Il y en a beaucoup qui disent, oh, mais tu sais, je suis fait de même. Ou tu sais, Dieu m'a créé comme ça. Oui, et Dieu m'aime comme je suis, mais il m'aime trop pour me laisser comme ça. Amen. C'est le temps que ça change. Regarde ton voisin, dis, c'est le temps que ça change. Alléluia. Alléluia. Mais si on veut changer, et puis, petite parenthèse ici. On va peser sur pause un instant, et on va prendre juste quelques instants de réflexion. Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu aimerais voir changer? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie spirituelle que tu veux voir changer? Dans ta relation avec Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie conjugale que tu aimerais voir changer? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie sociale que tu veux voir changer? Est-ce qu'il y a des choses dans ta situation financière que tu aimerais voir changer? Tu aimerais avoir un meilleur emploi, une meilleure carrière, un meilleur salaire? Est-ce qu'il y a des choses dans ta santé que tu aimerais voir changer? Est-ce que tu es tanné d'avoir toujours mal? Est-ce que tu es tanné d'être toujours fatigué? Est-ce que tu es tanné de ne pas être en forme? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux voir changer? Dans notre église, est-ce qu'il y a des choses qu'on veut voir? Est-ce que dans la ville de Drummondville, il y a des changements que vous souhaitez? Dans le Canada, dans le monde, qu'est-ce que vous voulez voir? Mais dans votre vie personnelle, surtout, qu'est-ce que tu veux voir changer? Parce que il faut savoir qu'il y a quand même un processus. Si on veut être changé pour changer le monde, il y a quand même certains principes qui s'appliquent à tout le monde. Que ça soit Pierre, que ça soit Sylvain, que ça soit moi, que ça soit mon épouse, ou que ça soit n'importe qui. Il y a quand même quelques principes. C'est les quatre principes qu'on va voir aujourd'hui sont universels. Ça s'applique à tout le monde. Si tu veux être changé pour changer le monde, il faut que ces quatre choses soient compris. Amen. La première de ces choses, c'est l'insatisfaction. L'insatisfaction. C'est-à-dire qu'il faut rejeter le statu quo. Si tu veux changer quelque chose, il faut être tanné du présent. OK? Et il y a une fine ligne parce que la Bible nous enseigne d'être content dans l'état où on se trouve, mais c'est une chose d'être content, c'est une autre chose d'être satisfait. Hein? On n'est pas en train de mépriser les jours des petits commencements ou de mépriser ce qu'on a déjà ou d'oublier ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais tout en sachant qu'il y a encore plus, il y a encore mieux. Et donc, si on veut changer notre vie, il faut rejeter le statu quo. Il faut arrêter de dire, ben écoute, je suis comme ça depuis longtemps, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Si on regarde la province du Québec, on peut pas dire, ben écoute, on est au Québec, c'est comme ça. Non, non, il faut dire non à qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui si on veut changer à avoir quelque chose de différent. OK? Que ça soit une équipe sportive ou quoi que ce soit, je sais que j'ai des fans de sport qui habitent chez nous et une des équipes qu'un de mes fils aime, ils ont finalement après une longue histoire de pertes et de pertes et de pertes, finalement, ils ont dit, c'est temps de changer. Et pour eux, c'était, il faut changer de coach, parce que ça marche plus, ils étaient tannés de perdre. C'est le temps que ça change. Amen? Mais ça, c'est la première chose, c'est l'insatisfaction. Et pour regarder ces quatre principes aujourd'hui, je vais vous amener dans une histoire de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui est vraiment frappant. On va voir l'histoire de quatre hommes qui avaient pas beaucoup de raison d'espérer. C'était quatre personnes dans une situation misérable, dans une situation difficile, dans une situation désespérée. Mais ces quatre hommes ont vécu un changement et le changement qu'ils ont vécu a donné place à un changement à toute leur nation, à tout le peuple. Donc, et on va regarder cela tout de suite, si on peut aller dans 2 Rois chapitre 7 et on va parler de ces quatre personnes qui étaient lépreux. Et juste pour vous donner un peu de contexte, la situation, c'est que eux, ils faisaient partie du peuple d'Israël qui était attaqué par les Assyriens. Les Assyriens, ils avaient même assiégé la ville de la Samarie et c'était tellement grave la situation. L'armée avait entouré la ville et à l'intérieur de la ville, les gens étaient littéralement en train de crever de faim. Et sans être trop graphique, la Bible nous dit qu'il y avait même des femmes qui commençaient à manger leurs enfants. C'était tellement pénible. C'était comme ça, c'était tellement horrible la situation. Mais ces quatre hommes n'étaient même pas à l'intérieur de la ville, ils étaient à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient lépreux. Et les lépreux n'avaient pas le droit d'être avec les autres, donc ils étaient à l'écart. Donc imagine leur situation. Ils sont déjà atteints par cette maladie grave, que la peau est atteinte, ils sont dans la misère, et en plus, la ville d'où ils viennent est assiégée, et les gens meurent à l'intérieur, et il y a une armée qui attend tout simplement la destruction et la perte totale du peuple à l'intérieur. Ça, c'est la situation. Et donc, on va lire ici, il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? » Il commence à être tanné. Il commence à dire, on va rejeter le statu quo. On va pas juste rester comme ça. Est-ce qu'on va juste baisser les bras et mourir ici? Et laisse-moi vous dire, peut-être vous êtes depuis longtemps atteint d'une maladie. Peut-être depuis longtemps vous avez de la difficulté dans vos finances. Peut-être depuis longtemps vous avez les luttes avec la dépression. Et est-ce que vous allez juste rester comme ça et mourir? Il faut dire non, assez, c'est le temps que ça change. On va le dire ensemble, c'est le temps que ça change. Alléluia. Et une fois qu'on a pris cette décision, non, ça va faire, c'est le temps que ça change, il faut donner place à une nouvelle vision. Donc l'insatisfaction, c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est la vision. Et c'est-à-dire qu'il faut voyez un futur meilleur. Il faut commencer à croire et à voir que, c'est là ma situation aujourd'hui, mais je ne suis pas obligé de rester comme ça. Les lépreux ont dit, tout le monde meurt à l'intérieur de la ville. Nous sommes ici. Est-ce qu'on va juste rester ici, mourir? Non, ils ont commencé à avoir une nouvelle vision. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé dans le corps de ces quatre lépreux. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. En autre mot, ça donnerait absolument rien d'aller à l'intérieur de la ville avec nos anciens amis ou avec notre parenté parce que eux, ils sont en train de mourir. Nous allons tout simplement mourir avec eux. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Donc, pas beaucoup de choix, vous êtes d'accord? Sauf qu'ils ont eu une vision. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. On va aller voir l'ennemi. On va aller dans le camp de l'ennemi, de cette armée qui est là, en train d'assiéger la ville. On va aller dans leur camp parce que nous savons que eux, ils ont de la provision. Eux, ils mangent bien. Eux, ils boivent. Eux, ils sont bien vêtus. Eux, ils sont en sécurité. Donc, on va nous jeter dans le camp des Syriens. Et s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. En autre mot, on n'a absolument rien à perdre, mais ça donne absolument rien de rester là où nous sommes. Amen. Dans votre vie, laissez-moi vous dire, vous n'avez rien à perdre en croyant Dieu et en faisant confiance à Dieu. Absolument rien. Mais une petite parenthèse que j'aimerais ouvrir ici, c'est que la vision que nous devons voir, parce que là, on lit une histoire de ces lépreux. Eux, ils n'étaient pas nés de nouveau. Eux, ils n'avaient pas les promesses de Dieu comme nous avons. Eux, ils n'avaient pas un Nouveau Testament. Mais nous, nous avons la parole de Dieu et nous avons des belles promesses. Et qu'est-ce qui est important à remarquer, c'est que notre vision n'est pas basée sur ce que nous avons déjà vu, mais sur ce que le Seigneur nous a dit. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour votre futur? Si vous êtes malade depuis longtemps, est-ce que vous direz, écoute, ça fait déjà 10 ans, 15 ans que j'ai cette maladie, je sais que je me vois dans 10 ans avec cette maladie qui s'empire et finalement je vais mourir. Est-ce que c'est ça votre vision? Ou est-ce que vous dites, écoute, on est au Québec et je sais qu'il y a 0,6% des Québécois qui sont chrétiens évangéliques, ça a été comme ça depuis des longues années, ça va être comme ça encore dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce qu'on va juste baisser les bras, accepter ça, ou est-ce qu'on va dire, non, c'est le temps que ça change? Amen, c'est le temps que ça change. Mais ça va pas changer si on reste là où on est, si on bouge pas, si on fait rien. Il faut donner place à l'insatisfaction et ensuite il faut donner place à la vision, mais pas n'importe quelle vision, mais la vision que le Seigneur veut nous donner. C'est un peu dans l'histoire qu'on voit en Luc avec le pêche miraculeuse. On voit la pêche miraculeuse, on voit les hommes professionnels, les pêcheurs professionnels qui ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Certainement, ils étaient fatigués. Certainement, ils étaient un peu tannés même de travailler sans voir des résultats. Mais Jésus a dit d'aller dans les profondeurs et de lancer le filet. Et qu'est-ce que Simon a répondu? Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. » Tout le monde dit « sur ta parole. » Vois-tu, c'est ça la différence. Quand Dieu te donne une parole, cette parole peut te donner une nouvelle vision pour votre vie. Tu es malade depuis 20 ans, mais tu lis dans la parole que par les meurtres et ceux de Jésus, nous avons été guéris. Wow! Sur ta parole, Seigneur, je crois que je peux vivre dans la santé. Amen? Tu es dans la misère financièrement depuis des longues années, tu lis dans la parole, mais mon Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ah! Seigneur, sur ta parole, j'ai une nouvelle vision pour ma vie. Je ne vais plus rester, je refuse de rester. Je rejette le statu quo dans mes finances. Je rejette le statu quo dans mon mariage. Je rejette le statu quo dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, j'ai une nouvelle vision basée sur ta parole. Et il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. Donc, c'est ça que je vois pour le Québec. Je vois que même si depuis des longues années, il y avait une faible récolte d'âmes dans les églises, je vois que c'est le temps que ça change. Et si on est obéissant à la parole de Dieu, on va voir des âmes venir tellement qu'on aurait besoin d'appeler au secours aux autres églises. On va être obligé de travailler ensemble, en concert, pour conserver la moisson que le Seigneur va nous donner. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia! Donc, avec cette vision, on peut laisser de côté le statu quo et on peut aller de l'avant. La vision que le Seigneur nous a donnée en tant qu'Église, depuis longtemps, on le dit et on va continuer de le dire, c'est de faire un impact dans la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà par la puissance de la bonne nouvelle. Et maintenant, je dis, c'est le temps que ça change et c'est le temps de voir la réalisation de ces choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Trois choses spécifiquement qu'il nous a demandé de faire en tant qu'Église, c'est d'implanter les autres églises, de former les ouvriers et de publier la parole. Et ceux qui ont fait bâtir sur le roc, et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est un cours de base qu'on donne ici à la vie comblée. Si vous êtes nouveau arrivé ou si vous êtes un nouveau croyant, je vous encourage à vous inscrire pour ces cours, ces quatre séances de bâtir sur le roc. Et dans ce cours, vous allez apprendre des choses importantes de la parole de Dieu. Et par la suite, il y a un autre qui s'appelle « Découvrir la vie comme son enfant » où on parle de l'Église et de la vision de l'Église, la mission de l'Église. Et depuis des longues années, les gens, chaque personne qui fait ce cours écrit que cette Église a trois objectifs. C'est d'avoir une église victorieuse qui va donner naissance à d'autres églises dans la région, amen, et dans la francophonie, d'avoir un centre de formation biblique, un centre de formation ministérielle pour former les ouvriers pour la francophonie, et aussi de publier, d'avoir un ministère de publication et de médias pour publier la parole de Dieu dans la francophonie. Et vous savez que ces choses ont déjà commencé, on a déjà du fruit, l'Église et va bien, et aujourd'hui on a Pasteur Mafou et Pasteur Valérie qui ont pris la charge de 7 églises locales pour être berger de 7 assemblées, mais vous savez que les 3 volets sont encore là. Et le Seigneur nous a donné, ma femme et moi, ce mandat de diriger à ce niveau-là, d'être sûr que cette église devienne une église qui va donner naissance à d'autres églises. On va implanter des autres églises, ici au Québec, amen. Nous, l'église La Vie Comblée, on va continuer avec Réma. On est dans notre 10e année de Réma. Ginette et Claude se font partie intégrale de cette équipe. Ginette comme doyon ou dean de l'école et Claude qui est administratrice. Et on a aussi plusieurs diplômés de Réma Québec. Et même en fin de semaine, on a des gens qui vont venir de partout dans la province. Ils vont venir ici, à Drummondville, pour continuer leur formation pour le ministère. On a commencé en 2012 le centre de formation en Haïti. On a 300 quelques diplômés et on va en autre 349 étudiants. Et le 4 février, on va avoir notre première retrouvaille avec probablement 600 personnes qui sont là. Et c'est cette église qui fait cet impact. Amen. Alléluia. On a vraiment des choses dans notre cœur au niveau de médias, au niveau des publications, des livres, etc. Et le Seigneur est en train de bâtir son église, mais le meilleur est à venir. Donc, il faut pas baser notre vision sur ce qu'on a vu dans le passé. Il faut baser notre vision sur ce que le Seigneur nous a dit. Et cette église est appelée à faire un impact dans cette ville, cette province, dans la francophonie et au-delà. Amen. Donc, premier principe qu'on a vu, c'est l'insatisfaction. Le deuxième, c'est quoi? La vision. Mais c'est quoi le troisième? C'est l'action. Donc, c'est bien beau d'avoir l'insatisfaction de dire « je suis tanné, je ne veux plus rester comme ça ». C'est bien beau d'avoir une vision de qu'est-ce qu'on peut être en futur meilleur, mais par la suite, il faut agir. Il faut prendre un pas de la foi. Regarde ton voisin, dis « prenez un pas de la foi ». Verset 5, on retourne à nos amis les lépreux ici. Ils partirent donc. Moi, j'ai mis ça en gras. Ils partirent donc. Le donc est important. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis parce qu'ils étaient tannés, l'insatisfaction, et parce qu'ils avaient une vision d'un futur meilleur. Amen? Ils sont partis. Et combien de vous, vous savez que si vous voulez voir un changement dans votre vie, il faut être prêt à partir. On peut pas rester là où on est si on veut aller ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et partir donc au crépuscule, ça c'est un mot que honnêtement je n'utilise jamais. Est-ce que combien de vous vous dites crépuscule? Hein, vous le dites régulièrement? Non. Ça veut dire quoi? L'aube du matin ou c'est vraiment dans les petites lumières. Il fait presque encore noir, mais il y a à peine assez de lumière pour marcher. Mais vois-tu, ça c'est intéressant. Je pense qu'au crépuscule, c'était pas tellement clair. C'était presque dans les ténèbres. Et je vais vous juste dire ceci, que des fois quand vous commencez à prendre un pas de la foi, ça va être comme ça. C'est comme, ok, je pars. Mais je ne le vois pas encore clair. Les premiers pas de la foi sont souvent très ambigus. Il y a des choses que, ok, je crois que le Seigneur veut que j'aille dans cette direction, mais on commence. Le sentier du juste est comme le jour resplendissant, la parole de Dieu dit, en Proverbe, qui devient de plus en plus clair jusqu'à à midi, où on est bien éclairé. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? C'est que il faut prendre des petits pas de la foi et marcher dans la lumière que vous avez. Et plus vous marchez dans cette lumière, plus la lumière va devenir claire. Amen. Et partir donc au crépuscule et pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Pense à ça. Il n'y avait personne. Pourquoi? Ils arrivent. L'armée n'est plus là. L'armée n'est plus là. Regarde qu'est-ce qui s'est passé avec ces hommes. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. C'est qui a fait entendre cela? C'est qui? C'est qui? Le Seigneur. Je veux que vous voyez quelque chose. Eux autres, dans la naturelle, ils ont pris un pas, et dans le surnaturel, Dieu commençait à agir en leur faveur. Amen? Vous voulez voir des changements surnaturels dans votre vie? Prenez des petits pas de la foi, même si vous ne ressentez rien, même si vous ne voyez rien, prenez un pas de la foi et Dieu va agir. La puissance de Dieu va se manifester. Mais eux autres, ils savaient pas. Eux autres, qu'est-ce qu'on on voit, c'est qu'ils ont pris un pas et en même temps, là où ils étaient à l'extérieur, ils prennent un pas. Ils n'entendent pas grand-chose, mais les Assyriens, l'ennemi, dans leur camp, à je ne sais pas combien de kilomètres, ils ont commencé à entendre un bruit. Mais je veux juste que vous remarquiez quelque chose, que eux autres, les lépreux, quand ils marchaient, ils n'étaient pas conscients de qu'est-ce qui se passait dans le camp. Ils marchaient toujours par la foi. Ils ne savaient pas que Dieu allait faire entendre un bruit d'une armée. Regarde, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils étaient dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Éthiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Donc, c'était tellement bruyant, c'était tellement fort le bruit qu'ils pensaient que les Israélites avaient pris l'aide ou ils ont invoqué l'aide des Égyptiens et des autres armées. Donc, ils pensaient qu'ils étaient sous l'attaque de plusieurs armées. Voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Éthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Bonne nouvelle. C'est temps que ça change. C'est temps que ça change. Et ça a pris quand même un peu de temps pour eux, hein, de marcher comme les lépreux, de faire le trajet, de faire le chemin jusqu'au camp des Syriens. Et eux autres, ils avaient probablement toutes sortes d'attaques dans leur pensée. Peux-tu imaginer? Ils sont en train d'imaginer toutes sortes de choses, probablement. OK, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire quand on arrive. Est-ce qu'ils vont nous tuer? Est-ce qu'ils vont nous prendre prisonniers? Est-ce qu'ils vont nous chasser? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais le Seigneur avait déjà chassé l'ennemi. Amen. Et quand vous marchez par la foi, avant de voir le camp de l'ennemi, avant de voir que tout est déjà abandonné, vous allez avoir ces combats entre vos oreilles. Vous allez avoir ces choses qui sont chuchotées dans votre oreille. Ah, oh, peut-être ça va pas marcher. Ah, oh, peut-être tu vas mourir. Ah, oh, tu vas être déçu. Ah, oh, ça va jamais marcher. Et tu vas dire, non, j'y vais. Parce que nous, encore plus que les lépreux, nous avons des promesses de Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Et sur sa parole, nous avons lancé les filets. Amen. Donc, la quatrième chose qu'on va voir aujourd'hui, pour terminer, c'est la compassion. Parce que qu'est-ce qu'on va voir, c'est que ils ont eu l'insatisfaction, ils ont rejeté le statu quo, ils ont eu une vision, ils ont vu un futur meilleur, ils ont passé à l'action, ils ont pris un pas de la foi, et une fois arrivés, ils ont pu jouir de la victoire, ils ont vu et ils ont pris le butin, ils ont mangé, ils ont célébré, ils ont expérimenté la victoire. Et on parle aujourd'hui du fait que c'est le temps que ça change, comment changer votre vie pour changer le monde. Tout le monde dit pour changer le monde. Voici un grand problème dans les églises et parmi les chrétiennes aujourd'hui, c'est qu'on veut que le Seigneur nous change, mais on oublie des fois pourquoi. On oublie que, oui, il veut que vous soyez en bonne santé, mais pourquoi? Oui, il veut que vous soyez prospères, mais pourquoi? Oui, il veut vous donner la victoire, mais pourquoi? C'est parce qu'il y a un monde qui nous entoure, qui a besoin de la vie éternelle. La réalité, mes amis, voici la réalité, on n'y pense pas trop souvent, mais voici la réalité. Sur la planète Terre, il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui sont dans les royaumes des ténèbres, et ils ne savent même pas. Ils savent même pas que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Le monde entier est en route pour l'enfer. La réalité, c'est que si quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, il passe l'éternité séparé d'avec Dieu à l'enfer. Et la réalité, c'est que Dieu ne veut pas cela. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. La Bible dit clairement en Matthieu 25. Et Dieu ne veut pas. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous viennent à la repentance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça serait absolument, absolument inacceptable pour vous et pour moi de recevoir la vie éternelle, de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir la victoire dans notre vie et de ne pas le partager avec les autres. Et c'est ça qui se passe dans l'histoire. Regarde bien. La compassion, partagez avec les autres ce que le Seigneur a fait pour vous. Regarde qu'est-ce qui arrive avec ces lépreux. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, ils pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Peux-tu imaginer? Ça doit être une belle célébration. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas bu. Mais là, ils sont en train de manger. Ils sont en train de boire. Et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Donc, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Nourriture, boisson, vêtements, argent, or, la vie est belle. J'ai tout ce qu'il me faut. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. En fait, ils ont été sauvés. N'est-ce pas? Sauvés de la faim. Sauvés de leur misère et de leur difficulté. Et puis, ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Donc, ça me fait penser à beaucoup de chrétiens. On vient à Jésus et, waouh, on est sauvé. Je suis pardonné. Mes péchés sont pardonnés. Et ensuite, on est baptisé du Saint-Esprit. Et ensuite, on va courir dans une autre tente. Et c'est-à-dire, on va aller trouver d'autres vérités, d'autres biens spirituels qui nous appartiennent, d'autres promesses qui nous appartiennent. On va les recevoir. On va en jouir. Et on va célébrer. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas du tout mauvais. C'est bien. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut que vous mangiez. Il veut que vous buviez. Il veut que vous soyez bien vêtus. Il veut que vous ayez toute l'argent, l'or dont vous avez besoin, mais, regarde le prochain verset, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Avant d'aller plus loin, je vais vous poser une question, sérieusement, honnêtement, combien de vous êtes heureux d'être chrétien aujourd'hui? Vous êtes heureux d'avoir la vie éternelle? Et est-ce qu'il y en a qui sont heureux d'être baptisés du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y en a qui ont été guéris, qui sont contents d'être guéris aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le Seigneur agir dans les finances? Amen. Et il y en a qui ont eu des relations restaurées. Amen. Vous êtes contents de cela, n'est-ce pas? Mais regarde bien. Ça, c'est une bonne nouvelle que vous avez vécue, mais regarde bien verset 10. Si nous gardons le silence, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. En autre mot, c'est trop beau à garder ça juste pour moi-même. Les lépreux, ils ont été insatisfaits. Ils ont rejeté le statu quo. Est-ce qu'on va rester ici mourir? Non. Ils ont eu une nouvelle vision, un futur meilleur. On va aller dans le camp des Syriens, on n'a rien à perdre. Amen. Ensuite, ils ont passé à l'action, ils ont pris les parts de la foi. Et pendant qu'ils prenaient les parts de la foi dans le naturel, Dieu agissait dans le surnaturel et chassait l'ennemi. Ils sont arrivés dans les bénédictions, ils ont joui des bénédictions. Et ensuite, ils se sont dit, ça ne serait pas bon pour nous de garder ça pour nous-mêmes. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est une journée de bonnes nouvelles. C'est une journée de bonnes nouvelles. Amen. C'est une journée de bonnes nouvelles. On ne peut pas laisser. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez le lire vous-même, l'histoire. Mais ils sont allés rapporter ça au roi. Et en fait, toute la ville a été sauvée. Ce n'est pas juste 4 lépreux qui ont été sauvés. Toute la ville a été sauvée. Donc, tellement de leçons dans cela. 4 hommes impuissants. 4 hommes rejetés de la société. Quatre hommes atteints d'une maladie sans remède. Quatre hommes qui étaient faibles. Quatre hommes qui étaient désespérés. Quatre hommes qui, il n'y avait rien dans le naturel qui disait, waouh, c'est eux qui vont être les vedettes spirituelles ou les héros qui vont sauver. Non, parce que quatre hommes ordinaires, on agit et notre Dieu extraordinaire se servait de eux pour sauver toute la ville. C'est le temps que ça change au Québec. Amen? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est le temps que ça change. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est une petite église. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut être insatisfait avec le statu quo. On peut recevoir la vision que Dieu nous a donnée. On peut prendre des pas de la foi et s'attendre à ce que Dieu va agir. Et puis, on peut, avec compassion, partager cette bonne nouvelle avec tout ce qui nous entoure. Et moi, j'ai cette conviction que cette petite église, ici à Drummondville, au Québec, peut faire un impact extraordinaire sur cette ville, sur cette province, sur la francophonie, et même au-delà, par la puissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous y croyez? Hallelujah! C'est le temps que ça change. C'est le temps que ça change. On va terminer avec les paroles de Jésus qui a dit ceci. Allez! Allez! Allez faire quoi? Allez prêcher! Et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Alors faire quoi? Donnez gratuitement. Oh, je suis content d'être en vie en 2017. Ça fait une année extraordinaire, cette année. Alléluia. On va se lever, on va prier. Regarde un autre voisin, dit, c'est temps que ça change. Alléluia. Merci, Père Céleste. Si l'équipe de louange peut venir, on va prier aujourd'hui. Oh, merci, Père. J'aimerais vous inviter à réfléchir ce matin. Parce que, encore, si cette église va être utilisée par Dieu pour changer cette ville, cette province, la francophonie et même au-delà, il faut que chaque individu soit changé. Jésus change les gens et les gens changent le monde. Jésus change les gens et les gens changent le monde. Alors, dans ma vie personnelle, il y a des choses que je veux voir changer, améliorer cette année. Je suis insatisfait. Je rejette le statu quo dans ce domaine de ma vie. J'ai une vision d'un futur meilleur. Je prends de l'action. Je sais que Dieu agit en conséquence et avec moi et à ma faveur. Et avec compassion, je vais partager avec tous ceux qui m'entourent la victoire. Alléluia. Et si vous dites, mais, écoute, c'est pas si pire ma vie, c'est correct, j'ai tout ce que me faut. Tombez pas dans le piège d'avoir une petite vie égoïste. Mais je veux vraiment que tu donnes place à cette insatisfaction, pas mécontentement, pas d'être ingrat ou pas de manquer de la reconnaissance envers Dieu pour qu'est-ce qu'il a déjà fait, mais de juste avoir la faim et la soif de plus. Oui, il y a plus. Parce que quand tout le monde dans cette église commence à avoir faim du meilleur, oh, alléluia. Oh, quand tout le monde dans cette église rejette le statu quo, quand tout le monde reçoit la vision que Dieu nous a donnée, quand tout le monde commence à prendre des pas de la foi et avec compassion partage avec les autres, on devient une force redoutable. On devient une force que l'ennemi ne peut pas arrêter. Et Jésus bâtirait son église et les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Il y a des choses à changer. Mais on ne peut pas le changer dans notre propre force. Donc, si tout le monde juste peut fermer les yeux pour un instant, prenez juste quelques instants pour réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que tu veux changer dans ma vie? Pour que je puisse, à mon tour, changer le monde. Et engagez-vous dans votre cœur à faire ce qui est nécessaire pour laisser le Saint-Esprit agir, pour laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. Ce n'est pas force, ce n'est pas puissance, mais par mon esprit de l'Éternel des armées. Ce n'est pas les lépreux qui ont chassé cette armée, c'est Dieu qui l'a chassé. Mais c'était la foi de ces lépreux qui ont déclenché la puissance de Dieu. Et vous ne serez pas capable de vous débarrasser des mauvaises habitudes, vous ne serez pas capable de changer votre situation, vous n'êtes pas capable de guérir vous-même. Mais votre foi peut donner place au Saint-Esprit d'agir. Votre foi en Dieu, l'action sur sa parole peut donner place à la puissance de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Avec tous les yeux fermés, vous savez une chose qu'on fait à chaque dimanche matin, sans exception. On donne l'occasion à ceux et celles qui viennent à l'Église d'examiner leur cœur et de se poser la question la plus importante. On a dit aujourd'hui que sur la planète Terre, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont dans les royaumes des ténèbres et il y a ceux qui sont dans le royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes tous nés dans ce monde et la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire qu'on commence tous dans le royaume des ténèbres. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et que quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes passés. En fait, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc aujourd'hui, soyez honnêtes avec vous-même. Je ne vous demande pas si vous faites partie d'une religion ou si votre nom est inscrit dans le registre d'une église quelque part. La seule chose qui compte vraiment, c'est est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie au ciel? Et si aujourd'hui vous dites, pasteur, quel je suis, si je suis honnête avec toi, je ne sais pas. J'espère que je suis sauvé de mes péchés. J'espère que je suis dans la famille de Dieu, mais je ne suis pas à 100% convaincu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais que Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand j'étais encore dans mes péchés, quand vous étiez encore dans vos péchés, Christ est mort. Vous ne pouvez rien faire pour mériter la vie éternelle. En fait, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est un don gratuit. Comment est-ce qu'on peut recevoir ce don? La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est quoi un Seigneur? Un Seigneur est un maître. C'est pas assez de croire que Dieu existe. C'est pas assez de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il faut que tu confesses que Jésus est ton Seigneur. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas suivre ses instructions. Tu vas faire sa volonté avec son aide. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc ce matin, je vais compter à trois. Et si vous êtes là et vous dites, pasteur, je suis pas sûr, je ne suis pas certaine, mais j'aimerais savoir. Je vais compter à trois. Et si tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, tu aimerais que je prie avec toi pour que tu puisses confesser avec ta bouche que Jésus est ton Seigneur, que Jésus est ton Maître. Je vais compter à trois et tu peux juste lever la main et on va faire une prière ensemble. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dirait, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, j'ai besoin d'avoir cette assurance que je suis sauvé, que mes péchés sont pardonnés, que j'ai une place réservée pour moi au ciel et que je suis vraiment enfant de Dieu dans le royaume de Dieu. 1, 2, 3, levez la main si tu as besoin de prier cette prière. Il y a une personne ici, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Juste levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier ce matin avec moi? Dit oui, je veux donner ma vie à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut tous prier cette prière? Et celui qui a levé la main, j'aimerais que tu le pries à haute voix. On va dire ceci. Père Céleste, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Maître. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi, qu'il était enterré et qu'il est ressuscité. Je te remercie qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Ton esprit habite en moi. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. Et je suis maintenant dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Je suis sauvé et je suis reconnaissant. Et avec ton aide, je vais vivre pour toi. Change mon cœur, change ma vie pour que je puisse changer le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.